France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mathieu Noël. Comment devenir parent? C'est quoi être un bon père, une bonne mère? Comment concilier le rôle des parents et le travail? Comment éduquer sans être envahissant? Pour vous donner un coup de main, toute l'équipe de Zoom Zoom Zen vous propose une série consacrée à la parentalité. 8 épisodes pour vous servir de guide et se détendre. Évidemment, Modern Family, épisode 3 consacré à l'hyperparentalité. C'est parti.
L'hyperparentalité, oui. Oui, c'est les helicopter parents. Les parents d'hélicoptères là, qui veillent toujours sur leurs enfants. Les pauvres.
Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tiendra jamais, écrivait Romain Gary. Sauf avec les Lacarzouz, précisé dans sa postface de 2012, notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière. Pour autant, à cette exception près des Lacarzouz, la question se pose quand même. Peut-on trop aimer nos enfants? Est-ce qu'en étant toujours derrière eux, on ne finit pas par les surprotéger, de sorte qu'ils se retrouvent en l'âge adulte décontenancés par l'âpreté du monde réel, une fois sortis du cocon familial? Zoom aujourd'hui sur l'hyperparentalité, un phénomène qui, s'il part d'une bonne intention, peut avoir des conséquences psychologiques et sociales pour l'enfant. Alors, êtes-vous un hyper-parent? Si oui, êtes-vous à classer dans la catégorie des parents bulldozers ou plutôt celle des parents hélicoptères? Dans tous les cas, une remise en cause s'impose dans l'intérêt même de votre enfant. Prenons un exemple simple, frappant, sidérant, hein, dirait Marcel Ruffaut, celui de notre camarade Quentin Lui. Un journaliste qui, une fois qu'il aura trouvé ce F3 en petite couronne, se lancera dans la conception d'un petit lui, qu'il entend couver, car c'est sa conception de l'éducation. Mais je pose la question, que peut devenir un enfant à qui, bébé, chaque soir, avant de se coucher, son père, pensant bien faire, lui chantait
« Tu es mon millésime !»«
Mon Dieu !»«
Ma plus belle mère !»
Avec la voix de Marc-Olivier Fogiel. On ose imaginer cet terrible Zoom Zoom Zen spécial hyperparentalité. C'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
La seule bonne nouvelle, si effectivement Quentin chante du Obispo à son futur bambin, c'est que ça fera un nouveau client pour notre invité du jour. Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en psychopédagogie, pédagogie familiale et scolaire. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur la famille, dont justement Hyperparentalité, apprendre à lâcher prise pour le bien des parents et des enfants aux éditions Mardaga. C'est à force de recevoir en consultation des parents trop investis que vous avez dit là, il faut que j'écrive un livre pour calmer tout le monde.
Alors trop exigeant vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur enfant, parce que l'hyperparent, il est aussi exigeant vis-à-vis des enfants et peut-être même exigeant vis-à-vis du monde, parce qu'on veut un monde parfait pour nos enfants. Et c'est évidemment dans l'état dans lequel se trouve le monde, pour les hyper-parents, c'est pas facile pour le moment.
Bruno Humbeck, en quelques mots pour commencer l'émission, à quoi on reconnaît déjà un bon parent? C'est quelqu'un qui n'est ni dans l'hyper-parentalité, ni dans l'hypo-parentalité, un terme que je viens d'inventer.
C'est quelqu'un qui tolère ses imperfections. Déjà, un bon parent, c'est un parent qui dit « je vais pas être un père parfait ».
Ah d'accord, c'est propre.
Ah oui, il faut absolument tolérer ses propres imperfections. Il faut aimer son enfant, non pas en dépit de ses imperfections, mais par ses imperfections. Un enfant, c'est nécessairement imparfait. C'est même un peu chiant, un gosse. Hein, et il faut le savoir à la base. Il faut le savoir à la base. Les parents maltraitants, ce sont les parents qui effectivement disent « mon enfant, il va être parfait. Il va être absolument parfait ». Et c'est plus la revendication de l'excellence que de l'acceptation de la médiocrité. Hein. Homer Simpson, par exemple, est un très très bon exemple pour les parents postmoderne, hein, c'est-à-dire actuel, beaucoup plus que Charles Ingalls, par exemple. Charles Ingalls, c'est un parent qui se contente d'élever ses enfants. Donc, il met des règles, il fait en sorte que, finalement, il respecte ses règles, ses enfants, et qu'ils grandissent encadrés par des valeurs. Homer Simpson, lui, il va faire en sorte que chacun de ses enfants s'épanouisse. Résultat, il n'a pas de recette. Et donc, là, un épisode des Simpsons, on ne trouve pas de recette dedans. On découvre un problème, et à la fin de l'épisode, on découvre un autre problème. Par contre, chez Ingalls, il y a un problème et il y a une solution. Et un parent qui veut trouver une solution en permanence à tous les problèmes, il va se perdre.
Je comprends le parallèle, vous êtes quand même le premier psychologue à nous dire que la strangulation sur un enfant est une bonne chose. Parce que je me souviens de certaines scènes des Simpsons.
Ne vous dit pas qu'il faut étrangler son enfant, mais qu'on a parfois envie de le faire.
Voilà, c'est ça.
Le vrai parent, le vrai bon parent, c'est celui qui a parfois envie d'envoyer son enfant par la fenêtre. Le très mauvais parent, c'est celui qui le fait, mais le mauvais parent, c'est celui qui dit
bah, J'ai juste envie. Face à vous, Bruno, voilà quelqu'un à qui son fils ne pourra jamais reprocher d'avoir été un hyper-parent. Et pour cause, depuis sa naissance, il y a 3 ans, il a vu son fils en tout et pour tout 7 fois.
Oh,
en cause, ce staccanovisme qui le pousse à se lever à 5h du mat' pour enchaîner chronique dans la matinale et émission l'après-midi. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour.
Regardez-le, il est défait, regardez ses petits yeux là. Alors Cyril, décidément, votre petit bonhomme n'est pas prêt de vous voir, puisque outre votre chronique du matin et la rédaction en chef de Zoom Zoom Zen, vous assurez aussi cette chronique phare dans notre émission qui nous nous entraîne aux origines de notre expression du jour. Il m'a payé pour dire phare.
Ouais, ouais, ouais,
alors, Cyril, l'hyperparentalité, d'où ça sort?
Eh bien ça, mon vieux, c'est encore un coup des ricains. Faut toujours qu'ils soient excessifs, ces gens-là. Il n'y a qu'à voir la taille de leur grande frite au McDo. Mais bref, l'hyperparentalité, c'est un concept inventé, oui, par les Américains, et c'est un concept qui s'est caractérisé à travers un autre concept. Je sais, ça fait beaucoup de concepts, c'est tout le concept. Je reprends.
L'hyper... un mauvais sketch de Raymond DeVos. Raymond DeVos qui aurait pas trouvé l'inspiration.
Il y en a des bons. L'hyperparentalité, ça se manifeste d'abord à travers un drôle de mot, les parents hélicoptères. Je suis sûr, Mathieu, que vous vous êtes un jour imaginé dans la peau, le costume de Springfield Hawk, le héros de Supercopter.
Souvent.
Eh bien, moi, c'était plus Michael Knight, en cas 2000, mais c'est pas le sujet. Les parents hélicoptères, voilà un drôle de terme. Mais c'est comme ça que l'hyperparentalité va d'abord être théorisée. Nous sommes en 1990, cette expression est en fait une métaphore. C'est comme si les parents volaient en permanence au-dessus de leurs enfants, comme des hélicoptères, prêts à intervenir et à sauver leur progéniture en cas de problème.
Mais il n'y a pas que les parents hélicos, Cyril.
Figurez-vous qu'il y a aussi les parents bulldozers. Là, vous l'imaginez, ça se passe plus dans les airs, ça se passe sur la terre. Cette fois, les parents ne surveillent pas pour intervenir en cas de pépin. Ils anticipent les difficultés et ils défoncent les obstacles pour ouvrir la voie à leurs enfants. Comme ça, eh bien justement, ils ne connaîtront jamais de problème. Au risque d'enfermer les enfants dans un cocon, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci beaucoup Cyril. Bruno Humbeck, revenons pour démarrer notre discussion sur ces deux termes qu'a évoqué Cyril, les parents hélicoptères et les parents bulldozers. Ça a une réalité, ça?
Alors, c'est une réalité, c'est lié au fait simplement qu'on a... Il faut d'abord le dire, c'est pas une maladie hein, d'être hyper-parent, c'est une tendance qu'on développe tous plus ou moins, pour la bonne et simple raison que la plupart d'entre nous, on a convoqué nos enfants à naître. C'est plus des heureux événements, c'est encore moins des accidents. Hein. On a décidé d'avoir des enfants et donc on se sent terriblement responsable de leur venue au monde. Ça veut dire qu'on a peur qu'il leur arrive quelque chose. On ne les a quand même pas convoqués à naître pour qu'il leur arrive des malheurs. Mmh. Donc, on va avoir tendance à constamment les surveiller. Et ça, c'est le parent hélicoptère. T'es où? T'es avec qui? Tu reviens quand? Il suffit de voir des parents à la sortie des écoles. Ils sont scotchés à la barrière, comme si l'enfant pouvait pas marcher, comme s'il fallait directement le récupérer et le ramener à la maison, avec la question d'ailleurs que le parent hélicoptère pose systématiquement à son enfant. C'est pas quelle belle question as-tu posée, ça ce serait une belle question à poser à l'enfant quand il revient d'école, c'est ça a été. Et l'enfant se sent quasiment obligé de dire oui, ce qui fait que les enfants en difficulté n'osent pas dire qu'ils ne vont pas bien.
Parce que c'est important, il ne faut pas demander à son enfant comment ça a été.
La belle question qu'on pose à un enfant qui revient à l'école, c'est quelle belle question as-tu posée? On va à l'école poser des questions, on ne va pas donner des réponses. C'est ce qui fait la différence entre un petit Danois et un petit Français, ou un petit Belge, hein, ce sont les mêmes. 8 enfants sur 10 en Belgique ou au Danemark, quand ils lèvent le doigt, ont l'impression de faire quelque chose de négatif, de montrer une faiblesse. 8 petits Danois sur 10, quand ils lèvent le doigt, ont le sentiment de faire quelque chose de positif. Parce que les parents posent la question, mais tu vas à l'école poser des questions, donc on va te demander quelle belle question as-tu posée aujourd'hui. Nous, on est avides, effectivement, qu'ils reviennent. Alors, première question, c'est ça a été. Deuxième question, ça c'est plutôt le parent drone, c'est t'as bien travaillé, t'as eu des beaux points, avec cette idée qu'il faudrait aller à l'école pour obtenir des points comme on obtient un salaire.
Est-ce que c'est vraiment si récent que ça? Alors, le terme, certainement, d'hyperparentalité, mais en fait, ce que... Tout le temps dans l'histoire de l'humanité, on peut imaginer qu'il y a eu des parents protecteurs.
C'est le mot hyper qui est le souci dans l'hyperparentalité. Et le mot hyper, il est terriblement ambigu. Parce que c'est vrai que ça vient des États-Unis. Mais aux États-Unis, le mot hyper aussi a un double sens. C'est en même temps le dysfonctionnement de quelque chose, d'un système. C'est d'ailleurs un mot qui vient du monde médical. Et donc ça suppose un dysfonctionnement. Mais c'est aussi, il est hyper génial le gars. Et donc c'est quelque chose qui manifeste une forme de supériorité, ce qui fait que si vous dites à un parent que son enfant est hypersensible, il va en même temps le vivre. Waouh, il y a peut-être un petit souci, mais en même temps, il serait peut-être supérieur aux autres. Et donc, on a ce sentiment toujours un peu ambigu que ça manifeste aussi un indice de supériorité.
Est-ce qu'on a tendance à trop couver nos enfants, à trop les protéger de tout le temps? Faudrait-il revenir à une éducation plus à la dure, dite à la carrière?
Les règles, c'est 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes, 3, soleil. Alors arrête, ça va bien les conneries maintenant.
Les vacances de Cyril.
Pauvre gosse, déjà qu'il le voit si peu. Ou bien existe-t-il quand même un juste milieu? On en parle cet après-midi avec notre invité Bruno Humbeck. En zoomant sur ce phénomène de l'hyperparentalité, comment on devient un hyperparent? Quels sont les signes qui doivent nous alerter nous-mêmes en fait?
Alors il y a le parent hélicoptère, on a parlé, il y a le parent drone qui est un parent hélicoptère
drone.
Amélioré en fait, qui veut toujours le meilleur pour son enfant. Il faut que mon enfant soit tout le temps content. Et là c'est un petit peu les dérives de ce qu'on appelle la pédagogie positive, hein, qui a des points positifs en termes de paradigme de recherche, mais qui a aussi parfois été dans le mur quand il a supposé qu'il fallait que nos enfants soient tout le temps contents. La joie continue.
Ça, c'est une aberration.
C'est une aberration
absolue. Il faut que l'enfant connaisse la frustration.
Les autres émotions. La frustration n'est pas une émotion. La tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Il faut... Il y a un super dessin animé qui le montre, c'est Vice Versa, hein, qui montre comment fonctionne le cerveau d'un être humain et donc d'un enfant. C'est qu'on doit avoir nécessairement les cinq. Or, la pédagogie positive mal comprise, elle a donné l'impression qu'il fallait une joie constante, un plaisir continu, et on a confondu ça avec le bonheur. C'est toujours le problème, effectivement, et c'est ce qui a rendu l'hyperparentalité très compliquée. C'est une définition du bonheur qui était plutôt le bonheur en termes d'intensité. Petit exercice qu'on peut faire ensemble.
Allons-y.
Si je vous demande, entre 0 et 10, de penser au chiffre qui correspond à votre état de bonheur. Vous mettez un curseur entre 0 et 10.
Moi, ça y est.
Alors, qui a 7?
Moi.
Moi, j'ai mis 8.
Moi, j'ai mis 7.
Le chiffre magique, c'est 7. Le chiffre magique, c'est 7. Ah, voilà. Le vrai bonheur, c'est 7. 8, 9 ou 10, 8, ça va encore. Hein.
Vous mentez,
mais 9 ou 10, ça suppose soit qu'on est dans une forme d'euphorie qui est liée à l'état amoureux, hein, qui est le plus beau moment pathologique d'un être humain normal.
On sait bien que
c'est pas... C'est pas durable dans la durée. Ou une satisfaction intense. Or, certains parents ont cru qu'il fallait constamment maintenir l'enfant à un niveau de bonheur qui équivaut à 9 ou 10. Non, il faut 7 sur 10, ça va bien. Et il faut montrer cette forme de bonheur-là à nos enfants.
Est-ce qu'il y a un profil type de l'hyperparent, au sens, en fonction de son milieu social, en fonction de son origine culturelle? Est-ce qu'on n'est pas égaux devant ce...
Alors, on est effectivement égaux par rapport à l'hyperparentalité parce que, pour la plupart d'entre nous, comme je disais tout à l'heure, on a convoqué à naître nos enfants. Et donc, à partir du moment où l'enfant est programmé, on se sent responsable de sa venue au monde. Donc, on se dit, par hélicoptère, il faut qu'il rien lui arrive. Par en drone, il faut qu'il ne lui arrive que du positif, que le meilleur pour lui. Et par en curling, que moi je préfère à l'idée de parents bulldozer. On a l'impression que le bulldozer, c'est quelqu'un qui va écraser tout. Le curling, c'est ce sport où on lance un curling.
Très beau.
Vous avez des personnes qui frottent. Alors c'est un beau sport, c'est vrai, mais c'est pas très passionnant. Regardez.
Non, je le disais malheureusement au second degré pour les amateurs de curling que j'embrasse.
Mais oui, mais alors on le sait, cette façon de frotter un peu névrotiquement devant le palais, ça donne l'impression qu'on a le contrôle de la trajectoire. Et en fait, on a le contrôle que d'une toute petite partie de la trajectoire. Et avec nos enfants, c'est la même chose. Le vrai geste, c'est lâcher, parce qu'il faut lâcher nos enfants.
Et arrêter de frotter.
Et après, on verra ce que ça donne.
Manon.
L'hyperparentalité, qu'est-ce que ça change quand on est fils unique, fille unique, ou qu'on a des frères et sœurs, enfin pour les parents, du coup, quand ils ont plusieurs enfants?
La pression est parfois diluée. Encore que, sur le mot même parentalité, si vous allez, si vous faites des micro-trottoirs et que vous demandez aux gens c'est quoi la parentalité, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que pour eux, ça revient à l'éducation. Or, la parentalité, c'est la façon dont chaque enfant va transformer l'éducation pour en faire quelque chose d'individuel. Et si vous avez trois enfants, vous donnez la même éducation, ça fera trois éléments différents. On parlait des Ingalls tout à l'heure. Les Ingalls, un enfant formaté. Vous donnez une éducation, ils vont être tous les trois bien élevés. Et d'ailleurs, on demandait à l'époque, et vos enfants, ça va, ils sont bien élevés. Et ça vous suffisait. Maintenant, on vous dit, est-ce qu'ils s'épanouissent chacun individuellement, ce qui fait qu'on doit donner quelque chose, et puis faire en sorte que l'enfant le transforme pour en faire un objet d'épanouissement. Qu'on soit seul ou à plusieurs, la pression n'est pas beaucoup moins intense chez les enfants qui ont une fratrie que chez les enfants uniques.
Le CNIL alerte sur les conséquences potentiellement néfastes des montres connectées et de la surveillance GPS des enfants. Ça limiterait sa capacité à apprendre par lui-même et à mesurer les risques.
Alors c'est une réalité, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez l'impression que vous êtes tracé en permanence, ce qu'on appelle les enfants d'intérieur, ce sont des façons dont les enfants actuels...
Comme les chats d'intérieur?
Oui, c'est ça, ils ne bougent plus, les enfants bougent beaucoup moins qu'avant. Alors c'est une façon de s'adapter finalement à une exigence un peu paradoxale. Ne bouge pas, reste sous mes yeux parce que je suis sécurisé. Et en même temps, explore le monde, parce qu'il faut que tu explores le monde, il faut que tu découvres. Résultat, ces enfants se trouvent dans leur chambre, sur des écrans, et les parents, hyper-parents, s'inquiètent parce qu'ils sont trop souvent sur des écrans, sur des territoires qu'ils ne maîtrisent pas, qui sont les territoires virtuels.
Un jour, en tout cas, moi, j'y viendrai, la puce GPS que je fixerai sous la peau de Quentin, histoire de vérifier qu'il est bien en reportage, comme il dit pompeusement, et pas en train de jouer à Formula 1 sur PS5 avec son buddy Julien Febrault.
J'ai créé toute une carrière.
En attendant, j'imagine.
Devant les cours Florent, surtout.
En attendant que je me procure cette fameuse puce par l'intermédiaire de mon fameux ami informaticien, je suis comme vous, je ne peux que croire sur parole Quentin, qui... quand il me dit qu'il est, ma foi, sur le terrain.
Ah ben c'est vrai, oui.
Mais c'est vrai, vous êtes vraiment sur le terrain pour interviewer des gens. Est-ce que les gens sont globalement des hyper-parents?
Moi, je les vois partout, hein, les hyper-parents, à checker les téléphones portables à la sortie de l'école, tout stressé, à courir partout, dans tous les sens, à débarquer en vélo de nulle part.
Bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom, monsieur ?
Sébastien.
Vous êtes arrêté net, hein ?
Bah oui, j'ai vu France Inter, là. C'est l'hyperparentalité. Oui, c'est les helicopter parents. Les parents en hélicoptère, là, qui veillent toujours sur leurs enfants.
Sébastien a 3 enfants, 8, 5 et 2 ans. Il me dit ce qu'il observe dans cette génération de parents. Pour lui, c'est aussi le planning qui a changé.
Bah, ce que j'observe, beaucoup de gens imposent à leurs enfants genre 3-4 différentes choses par semaine. Escalade, après danse, après cours de théâtre. Les pauvres, donnez-leur de la place à juste explorer ce qu'ils veulent. Moi, j'aime qu'ils s'ennuient un peu de temps en temps. Comme ça, ils apprennent à ce qu'ils veulent vraiment.
Mais alors, l'hyperparent est-il devenu hyperactif ? J'intercepte ses 2 copines en balade, elles habitent à Arras et Boulogne-sur-Mer respectivement. L'une des 2 se prête au jeu, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Anne-Sophie.
Anne-Sophie, vous avez quel âge ?
42 ans et demi.
Non, votre métier ?
Préparatrice en pharmacie à l'hôpital.
Est-ce que vous avez des enfants ? Vous êtes maman ?
Oui, 4 enfants. Oui, oui.
Ils ont quel âge ?
16, 14 et 5.
En lisant la notion du jour, Anne-Sophie sourit à son amie. Elle semble directement concernée. Elle sort son portable et me montre quelque chose.
Quand mon fils aîné a eu son téléphone, avec son père, on a installé l'application Family Link, il me semble. Et comme ça, on savait à l'instant T où il était.
C'est quoi le nom de l'appli ?
Family Link. C'était quelque chose que l'enfant devait mettre, le parent aussi. Et voilà, et en fait, on pouvait tracer et regarder ce que l'enfant téléchargeait aussi.
Et ça géolocalise l'enfant aussi ?
L'enfant aussi, ouais. Ouais, ouais. C'est bien, hein ?
Oui, honnêtement, je sais pas si c'est bien, ça existe, disons. On poursuit la discussion. De quoi vous aviez peur ? Foncièrement ?
Ah ben, de l'enlèvement, de l'accident, voilà, de mauvaises rencontres au mauvais moment, quoi.
Oui, mais enfin, même s'il est tracé ? Est-ce qu'on va pas savoir s'ils sont enlevés ?
Non, c'est sûr, mais on saura de quel point, à partir de quel point ça s'est passé. Et puis si jamais il reste avec son téléphone, avec encore de la batterie, on peut savoir où le retrouver quand même.
Ah, vous êtes inquiète quand même ?
Oui, quand même, ah oui, bien sûr.
Un peu stressé. Mais je demande quand même à ces 2 quadras de comparer à leur propre adolescence.
Ah ben, c'était pas pareil. Déjà, nous, on n'avait pas de portable, donc... Et puis...
Moins traçable. Nos parents ne savaient pas où on était, avec qui.
Mes parents habitent à la campagne, donc c'était pas pareil. On allait voir les copains, les copines à vélo. Tandis que là, bon, bah, c'est plus la même chose, quoi.
Donc vous aviez, vous, une forme de liberté ado ?
Ouais, on était plus libre.
Ouais. Et ça vous ennuie pas que vos enfants n'aient pas cette liberté-là ?
Ils l'ont. Ils l'ont, juste dire où ils sont, c'est tout.
En même temps, ils prennent moins de liberté que nous. Ils sortent pas. Ouais. Moi, mes ados, c'est moi qui leur dis, mais allez au ciné, allez faire un basket, allez jouer avec les copains. Voilà, ils sont plus souvent sur les téléphones qu'à partir à l'aventure, on va dire.
Alors, les ados sont-ils devenus casaniers ? Et d'ailleurs, que pensent-ils de tout ça ? On va le vérifier. Sourire, appareil dentaire, sortie du lycée, 2 copines qui se tiennent la main.
Bonjour !
Quels sont vos prénoms ?
Élie.
Amandine.
Vous avez quel âge ?
16 ans.
15 ans, genre 16 ans dans une semaine.
Je leur fais lire notre mot du jour.
L'hyperparentalité.
Comment ils sont les parents en 2023 ?
Strict. Protecteur, très protecteur.
Et terrifié. Bah oui. Moi j'ai un contrôle parental et dedans il y a l'application GPS. Mes parents ils l'activent que quand il y a vraiment besoin. Là ils l'ont pas activé mais ils l'activent s'il y a besoin et ça vous suit si j'ai mon téléphone sur moi.
T'aimes bien ça toi ?
Non mais je sais la désactiver du coup c'est bon. Vu que j'ai hacké l'adresse email de mon père.
Ah, forcément vous croyez quoi ? Qu'ils allaient sagement se laisser installer la petite application. Et la Gen Z y blague pas, hein. C'est un peu V pour Vendetta cette génération. Mais elles disent que la surveillance numérique ne vient pas que du portable des parents. Ils ont un allié et de taille.
Bah en fait, maintenant, dès qu'on est absente, dès que le prof il met absent sur l'appel, les parents ils reçoivent une notification. Je me rappelle que j'ai été absente encore une fois. Et mon père, il m'a appelé, il m'a dit j'ai reçu une notification. À la minute près, il reçoit la notification. C'est automatique, en fait. Après, ça dépend de notre génération. Elle a tendance à beaucoup moins travailler. Donc, notre génération, elle a beaucoup plus la flemme. On préfère passer notre temps sur TikTok et Instagram. Donc, il faut bien qu'il fasse quelque chose.
Mais alors, est-ce que faire quelque chose doit forcément passer par être hyper présent, hyper pressant, hyper parent ?
J'ai le vertige à l'issue de ce quiz, Quentin. Beaucoup,
ah, c'est pas un
quiz.
Ce
micro-trotte, pense... effectivement. Non, mais c'était tellement riche, Quentin. Ah, je ne sais plus par où prendre ce micro-trottoir. On zoome sur l'hyperparentalité avec vous, cher invité. Bruno, qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a entendu dans la rue ? Est-ce que déjà, partons sur le fait qu'on surcharge nos enfants avec des activités extrascolaires, déjà, qui n'ont plus le temps de s'ennuyer ?
Tout à fait. Mais ce qu'il y a de génial dans ce reportage, c'est qu'on entend des sourires. Et ça, c'est la façon de sortir de l'hyperparentalité. Il faut l'identifier et être capable de sourire de cette hyperparentalité. Si on en fait toute une maladie, si on se bat contre, comme si on devait, par exemple, cette exigence de contrôle, qui n'est pas propre uniquement à la parentalité, on a besoin de tout contrôler, parce qu'on a l'impression que, dans un un monde digital, tout peut être mis sous contrôle, y compris finalement les déplacements de nos proches, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, que ce soit finalement l'ensemble de ceux qui nous entourent. On veut tout contrôler et ne rien laisser au hasard. Ce qui pose problème effectivement par rapport à une génération, et on l'entend aussi, c'est très joli de les entendre sourire, parce que c'est une génération particulière. Et celle de 12 ans, qu'on appelle maintenant la génération de verre, c'est une génération qui est plus intelligente que les autres générations.
Il y a des générations plus intelligentes que d'autres générations.
Oui, parce que si vous avez, par exemple, une pandémie, si vous avez le choc d'une guerre à proximité, si vous avez l'idée que la planète...
Ça fait grandir plus vite.
Ça fait grandir plus vite et ça fait poser les questions différemment. Mais, paradoxalement, c'est pour ça qu'on parle de génération de verre, ils sont aussi plus fragiles. Et donc, ils vont sur des réseaux sociaux, ils s'exposent, ils se mettent en danger, parce que quand on s'expose, on se met en danger, et ils perçoivent beaucoup plus qu'on l'imagine ce danger. Et donc, c'est ça qui est très joli dans le reportage, c'est qu'ils disent « Ok, je suis contrôlé, et je peux un tout petit peu comprendre. » On n'est pas dans « Mes parents, c'est des nuls, ils me contrôlent, ils sont vraiment lamentables. » On peut comprendre, on va jouer avec ce contrôle, et ce faisant, on va augmenter l'angoisse, hein, parce que si vous avez une application qui contrôle votre déplacement, et que vous l'enlevez, vous allez augmenter encore davantage l'angoisse de celui qui cherche après vous.
Mais, ou prendre une liberté.
Mais voilà, mais, ou prendre une liberté dont, avec laquelle on va jouer. Oui. Et c'est ce sourire partagé qui va permettre de s'en sortir.
Mais ça ruine pas la confiance aussi entre les parents et leurs enfants ?
Alors, c'est une confiance beaucoup plus générale que ça, c'est une confiance dans le monde. On l'a vu, nous, en Belgique, de manière très massive, et ça a accéléré le phénomène de parents hélicoptères, c'est l'effet du trou. On a eu l'impression effectivement que tous les enfants pouvaient être enlevés. On a eu toute une génération qui a commencé effectivement à perdre confiance, non pas en l'enfant, non pas en capacité du parent, mais au monde. La ville fait peur beaucoup plus que la campagne, alors que la campagne est plus dangereuse. Eh bien, la ville fait peur parce qu'elle génère des fantasmes, et donc c'est plutôt une confiance généralisée, en ce compris vis-à-vis du monde.
C'est marrant que vous parliez de sourire, parce que souvent, ils me disaient « Je suis hyper parent, mais je me soigne ». Et Anne-Sophie, elle disait « De toute façon, ils prennent pas la liberté que nous avons pu prendre nous-mêmes dans notre jeunesse, je les pousse à sortir, sinon ils restent dans leur chambre ». C'est vrai,
alors,
ça ?
Ça, c'est effectivement, mais c'est ce qu'on appelle les enfants d'intérieur, qui angoissent terriblement les parents. Les parents ne comprennent pas que les enfants se sont adaptés, les adolescents aussi, et que leur chambre, c'est pas un cachot, c'est pas comme si ils étaient devenus des taulards et qu'ils ne bougent plus, parce que dans leur chambre, il y a leurs copains qui sont tous là, sur les réseaux sociaux, ils sont avec eux, il y a des jeux, il y a des séries, ils font plein de choses. La chambre, c'est devenu l'endroit où on dort, où on travaille peut-être un peu parfois de temps en temps, où on joue. Quand on était jeunes, nous, nos parents nous disaient « file dans ta chambre », parce que c'était l'endroit de la punition.
C'était négatif.
Maintenant, c'est « sors de ta chambre ».
Mais est-ce que pour autant, une relation numérique peut valoir une relation réelle ? Il faut quand même les encourager un tout petit peu à sortir.
Alors évidemment, et eux-mêmes le savent, on l'a vu pendant la pandémie, quand ils ont été gavés d'ordinateurs, ils étaient eux-mêmes en train de dire « j'ai besoin d'autre chose ». Et donc le but n'est pas de dire « il faut le numérique » ou autre chose, c'est et autre chose, et ils le sont tous. Les personnes qu'ils rencontrent sur les réseaux sociaux, ce sont les gens qu'ils rencontrent dans la vraie vie, et donc c'est quelque chose qui poursuit les relations et qui leur donne une autre forme.
Bruno Humbeck, psychologue, est toujours avec nous pour nous aider à cerner ce phénomène de l'hyperparentalité. Un psychologue américain a publié une enquête qui conclut que les enfants des parents hélicoptères sont moins ouverts aux nouvelles idées, plus stressés, plus vulnérables, plus complexés que les enfants à qui on laisse plus d'autonomie. Pour d'autres, ça représente aussi une difficulté pour les enfants à passer à l'âge adulte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Quelles sont les conséquences concrètes, mesurables pour les enfants ?
Alors, quand ça se passe mal, hein, parce que l'hyperparentalité, c'est pas mauvaise éducation. Hein, donc, quand ça se passe mal, effectivement, on peut avoir des déficits dans l'autonomie. La capacité, l'autonomie, c'est pas la capacité de se débrouiller tout seul, c'est la capacité de faire appel aux autres quand c'est nécessaire. Pas à tout bout de champ, mais pas non plus attendre trop tard. Ce sont des enfants qui ont du mal, y compris à faire appel aux autres, parce qu'on a tout fait pour eux. Le problème n'est pas vraiment d'ailleurs seulement le parent hélicoptère, c'est le parent drone, celui qui anticipe en permanence, qui ne vous laisse même pas le temps de manquer de quelque chose, que déjà on vous l'amène, qui par exemple va éviter toute déception. Or, il faut décevoir nos enfants, il faut qu'ils comprennent que les choses ne correspondent pas toujours à leurs attentes. Quand un hyper-parent hésite entre trois cadeaux, il prend les trois.
Excusez-moi, je vais poser une question qui n'est pas du tout personnelle, c'est pour un ami. Dans le cas de parents séparés par exemple, est-ce que le problème ne se présente pas encore plus, au sens où quand on a la garde de son enfant, une semaine sur deux ou un week-end sur deux, on n'a pas tendance à en faire trop, à vouloir que tout soit parfait pendant le moment où on l'a.
Alors c'est surtout le problème d'une forme d'hyper-parentalité de compétition, je vais dire, dans lequel on veut être être, il faut que ça se passe mieux chez papa que chez maman, ou mieux chez maman que chez papa.
Oh, pas et, forcément. Et donc, ne m'accusez pas de tout et n'importe quoi, Bruno.
Mais non, pour mais
simplement pour soi-même, comme
vous,
on le voit. Oui, mais c'est bien pour cet ami. Cet ami vous parle. Il est avec nous en duplex. Non mais pas forcément une compétition avec la mère ou le père. C'est juste pour soi-même. On l'a moins. Donc quand on l'a,
la revendication de perfection, on l'a ensemble et on l'a séparément. C'est à peu près la même. Et quand on l'a ensemble, c'est parfois plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes critères de perfection.
Ah oui, donc on
s'engueule. Et donc on peut s'engueuler par rapport à l'idée que pour être hyper parent, il faut être comme ça. Pour que l'enfant soit bien, il faut ça. Il faut choisir ce stage-là. On va choisir le meilleur stage, le meilleur. Et donc là, parfois, il y a des tensions entre parents. De nouveau, l'hyperparentalité n'est un problème que si elle crée de la tension. Entre les parents aussi, hein, parce qu'on a parfois des contextes d'hyperparentalité qui sont difficilement vécus par les deux parents, parce qu'on a une définition de ce qui est meilleur pour l'enfant qui est différente chez l'un et chez l'autre.
Quentin ?
Est-ce qu'il n'y a pas une question d'âge sur l'hyperparentalité ? Comme on fait des enfants de plus en plus tard, on a moins d'insouciance, on me l'a dit ça dans la rue, c'est quelque chose qu'on m'a dit par exemple.
Oui.
Est-ce que le fait de faire des enfants de plus en plus tard nous rend plus stressés, plus nerveux ?
Alors, c'est peut-être le fait de les avoir programmés depuis plus longtemps. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, hein, on le sait, si vous avez attendu longtemps cet enfant, il est souvent surinvesti parce qu'on a mis beaucoup de temps à le faire et donc on a créé un petit enfant idéal dans sa tête. Oui. Et c'est ça qui est parfois difficile avec l'hyperparentalité parce que le fameux « j'ai tout fait pour toi ». J'ai tout fait, je respirais plus. Donc, je suis responsable du fait qu'à un moment donné, j'ai mis ma vie de côté pour lui. Ce dont les enfants ont un besoin urgent, c'est des parents heureux. Ils veulent vraiment être heureux et c'est peut-être la seule obligation qu'en tant que parent on doit se donner, c'est celle d'être heureux soi-même, parce que sinon vous ne donnerez pas envie à vos enfants de grandir. Des parents plaintifs, qui trouvent que la vie est nulle, qui trouvent que tout est nul, bah ça donne l'idée à l'enfant, grandir c'est peut-être pas une très bonne idée. Et donc on risque d'avoir des enfants effectivement qui se disent bah, je vais rester enfant toute ma vie, et même l'adolescence est vécue comme une crise, donc je reste enfant. Alors que des parents heureux, et moi je le vois, des enfants soufflés, quand on leur dit « vous allez être tranquille, on va vous foutre la paix », on va s'occuper de papa et maman, parce que papa et maman ne s'occupent pas assez d'eux-mêmes. Là, les enfants soufflent. Réellement, vous savez, il faut vraiment tout ce que dans nos sociétés...
Il faut arrêter de mettre le focus sur l'enfant.
Mais il faut surtout arrêter...
Que la vie ne tourne pas autour
de l'enfant. Et qu'on ne coupe pas notre temps en deux, le temps professionnel et le temps familial, mais qu'on le coupe en trois, le temps personnel... Le temps familial qui est un temps négocié et le temps professionnel qui est un temps obligé.
Mais les enfants, ils peuvent en souffrir quand même, surtout quand ils sont adolescents, de cette hyperparentalité.
Alors, effectivement, alors ils vont souffrir, ils vont aussi faire souffrir le lien. Donc, c'est pour ça qu'on parle de crise adolescente. Et la crise adolescente, c'est pas la crise de l'adolescent, hein. C'est la crise de ceux qui s'occupent de l'adolescent. Moi, quand on m'amène un enfant, un adolescent en crise, j'ouvre la porte, je sais ce que je vais voir. Un adolescent plutôt goguenard qui se demande ce qu'il fait là, et autour de lui, deux parents qui savent très bien pourquoi ils sont là, c'est-à-dire qu'eux souffrent énormément. Le problème de l'adolescence, c'est un peu comme la levure, ça gonfle tout. Ça veut dire que la préoccupation qu'on a, par exemple, par rapport à l'avenir de son enfant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Et en plus, il n'a même pas l'air d'aimer l'école. Or, c'est tout à fait normal qu'un adolescent n'aime pas l'école. Il y a plein d'autres choses à faire pour mobiliser son attention. Mais le parent a du mal à concevoir ça. Et certains adolescents qui vont zapper leur crise d'adolescent pour se conformer aux attentes des parents vont faire comme s'ils aimaient l'école. Alors que, ben, on sait que ceux qui se mettent en crise, parfois, par rapport à la scolarité, c'est-à-dire qui ne ratent pas à l'école, hein, mais qui se contentent de résultats minimum. Ça, les adolescents sont très forts pour viser comme ça un minimum.
J'ai des souvenirs de ça.
Ceux-là sont en bonne santé mentale.
Manon Mariani du passé, faisons table rase. Je vous propose de vous concentrer sur votre deuxième passion, le journalisme. Chaque après-midi, vous scrutez les réseaux pour nous et vous nous parlez aujourd'hui d'une option que je ne trouve jamais dans mon téléphone, je crois.
La fameuse géolocalisation, Mathieu. Celle qu'on galère à trouver quand on en a besoin et qu'on oublie aussi de désactiver quand on veut être tranquille. En général, on l'utilise pour une durée de temps limitée, histoire de donner à un ami l'endroit précis où l'on se trouve pour qu'il puisse nous retrouver plus facilement, ce que je fais à peu près tous les week-ends quand les buts de Chaumont sont blindés et que je galère à retrouver mes potes. Bref,
quel bobo.
Mais au-delà de cette utilisation pratico-pratique, la géolocalisation a surtout envahi les foyers du monde entier. Un chiffre pour le prouver, en Angleterre, une étude montre que 40% des parents utilisent un GPS pour surveiller leurs enfants, quasiment la moitié des parents du pays. Alors, plusieurs options sont utilisées par ces parents espions. Celles proposées directement par le smartphone, hein, comme l'application localisée sur son iPhone, c'est ce qu'il y a de plus facile et de plus pratique. Mais les parents veulent aller encore plus loin avec l'application Life 360, qui est l'appli leader de la géolocalisation.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Elle est utilisée par plus de 72 millions de personnes dans le monde, manifestement pas vous, Mathieu. Life 360 est vendu comme le réseau social pour la famille. Le but est que chaque membre puisse géolocaliser les autres en temps réel. L'appli propose même d'analyser en fonction de la vitesse de la personne si elle a eu un accident et si c'est le cas, envoyer une alerte, une notification, oui. Alors d'autres applis vont même encore plus loin dans la surveillance. Find My Kids permet d'activer le micro de son portable, du portable de son enfant à distance pour savoir ce qu'il est en train de faire ou en train
c'est
de dire.
C'est bien le jour où il roule sa première pelle.
Ouais, exactement, c'est très sympa. Ou encore Orpact prend des screenshots de l'activité internet de son enfant et l'envoie à son parent.
Moi, je préfère pas voir.
On est d'accord. Alors forcément, ce genre d'appli pose de vraies questions éthiques. Par exemple, est-ce que les parents ne trahissent pas la confiance de leurs enfants? Une étude dit qu'un enfant constamment surveillé devient plus secret avec ses parents. En même temps, ça paraît logique. Quel ado de 16 ans a envie d'être traqué par papa-maman alors qu'il a juste envie de fumer des clopes avec ses potes derrière le lycée?
C'est pas bien de fumer des clopes néanmoins, Manon.
Ne le faites pas. Du coup, ce n'est pas très étonnant de les voir en parler sur des forums entre eux, sur Reddit. Il y a carrément des hashtags insane parents, parents fous, où des jeunes parlent de leurs expériences avec leur famille. Ils partagent des captures d'écran des fois où ils ont été les plus intrusifs avec eux. Et sur TikTok, encore pire, on trouve carrément des vidéos tutos de jeunes expliquant comment bloquer leur position sur l'appli Live 360 sans que leurs parents le sachent. Je ne donnerai pas l'astuce, mais vous pouvez aller voir.
Mais ça peut quand même avoir aussi des côtés positifs, ce genre de pratique.
Évidemment, notamment pour les jeunes filles adolescentes. Certaines se disent rassurées de savoir que leurs parents peuvent savoir où elles sont quand elles rentrent tard, par exemple. En fait, c'est comme pour tout, il faut bien instaurer des limites en accord avec ses enfants qui ont aussi le droit à leur jardin privé. Il ne faut pas abuser de ces applications qui peuvent devenir de vraies sources de conflits entre parents et enfants. C'est exactement ce qui se passait dans un épisode de Black Mirror où une mère mettait une puce pour voir ce que faisait sa fille. À l'origine, c'était pour la protéger, mais ça a mal tourné.
Tu m'as observée.
Non, chérie, je voulais pas, je t'assure.
À moi.
Je voulais juste te protéger, je voulais que tu sois en sécurité.
Comment ça s'éteint?
Tout ce que j'ai fait, je le fais uniquement pour toi.
Black Mirror, encore plus délicieux en français, bien sûr. Hein, cette fameuse VF qui apporte un petit plus, je trouve, personnellement, à cette série assez moyenne à la base.
Totalement. Hein. Je vous le disais, tout ça doit s'encadrer donc et se faire dans le dialogue. Et puis, il faut faire très attention à comment ces applications utilisent nos données. Life 360 a par exemple vendu pour 16 millions de dollars des données de ses utilisateurs. C'est comme ça, en fait, qu'ils gardent leur application gratuite. Donc, aux parents qui nous écoutent, attention à rester vigilants de ce côté et surtout, communiquer avec ses enfants pour rester dans une relation de confiance et non de flicage exagéré.
Merci Manon, l'hyperparentalité, je m'y connais, mais pour en parler encore mieux que moi, quoi de mieux qu'un humoriste qui n'a pas d'enfant, mais un sacré neveu. Bonjour Marine Baousson.
Maintenant, bonjour, merci pour cette émission sur l'hyperparentalité. Moi j'aime beaucoup ce terme là de parent hélicoptère. Hein. Alors moi au début je pensais que ça voulait dire faire l'hélicoptère avec sa progéniture. Mais en fait non, ça veut dire avoir tendance à surveiller ce que fait son enfant pour être sûr que tout va bien pour lui, et j'avoue, je me suis reconnue. Par exemple, c'est vrai que j'ai tout le temps peur qu'il se casse la gueule, voilà, qu'il se fasse mal.
Marie, je croyais que vous n'aviez pas d'enfant.
Non, mais je parle de mon neveu, Mathieu. Oui, non, en fait, dans l'émission, vous avez parlé d'hyperparentalité, mais moi, j'avoue, je suis victime d'hyper-tataïté. C'est-à-dire que je me mets une pression de dingue quand il s'agit de mon neveu de 2 ans et demi, Roger. Et là, je vois déjà les bons raisons de se dire hein « Quoi ? Il s'appelle vraiment Roger ?»
C'est une chronique humour.
Il s'appelle vraiment comme ça, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Sinon il aurait eu un nom plus neutre, genre un prénom composé comme Jean-Pierre ou Mathieu Noël. Quand Roger est né et que mon frère l'a déclaré à la mairie, la dame lui a répondu « Vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce métier, c'est mon premier Roger. » En fait, il s'appelle Roger Baousson, exactement comme mon grand-père. Et le jour de sa naissance, moi j'ai demandé à mon père « Ça va papa, ça te fait pas trop bizarre que ton petit-fils s'appelle comme ton père exactement ?» Et mon père, je vous assure, c'est vrai, il m'a dit « Non, je vais m'habituer, puis au moins, voilà, on a déjà des cartes de visite à son nom, un permis de conduire à son nom, un acte de décès à son nom. C'est pratique. » Mais il s'appelle Roger, écoutez, ça lui va bien. Voilà. Surtout que quand il était bébé, j'avoue, il ressemblait un peu à un élu de province en fin de carrière. Ouais. Quand il faisait son rôle, c'est simple, on aurait juré Gérard Larcher en fin de repas.
Oh non.
Si le jour il avait un col roulé, il ressemblait à un sénateur. Alors pour déconner, je lui ai demandé de combien serait sa retraite. Et comme les vrais sénateurs, il m'a répondu de la merde. Voilà, il m'a dit, je cite, « Non, Auger veut faire de la cotinette en zizi. » Voilà, alors je traduis pour les gens qui ne parlent pas sa langue, hein, il veut faire de la trottinette en zizi, tout nu. Donc, et visiblement, il n'est pas que sénateur, il a aussi un petit côté Benjamin Griveaux qui fait des sports de glisse. Tout ça pour vous dire donc que depuis que mon neveu est là, moi je me mets une pression de dingue pour qu'il soit heureux. Pour son bonheur, je vais être présente pour lui malgré la distance. Pour son bonheur, je veux qu'il puisse tout me dire. Et évidemment, pour son bonheur, je veux qu'il me préfère à Tata Fanny. Ma sœur, que dis-je, mon ennemi juré. Entre Tata Fanny et moi, c'est la guerre. Vous avez vu Avengers Game? Bon bah rien à voir. Parce que eux, ils essayent pas d'acheter l'amour de Thanos à base de bon bec. Mais entre Fanny et moi, tous les coups bas sont permis. Et c'est souvent elle qui gagne, j'avoue. Ma sœur, elle me dit des trucs du genre, arrête de lui acheter des les cadeaux là, tu la gâtes trop. Puis après, à la fois d'après, elle arrive chez eux et elle offre un toboggan, genre normal, un lundi. Elle joue pas à faire plaît, tata Fanny, mais elle a un gros avantage. C'est qu'il me calcule pas, ce petit bâtard. Mais c'est-à-dire que je ne le fais pas rire. Voilà, c'est quand même très humiliant, hein. Je vous rappelle que je suis humoriste professionnelle. Hein. Quand on lui demande d'aller faire un bisou à tata, il court vers moi et au dernier moment, il va dans les bras de ma meuf. Voilà. Oui, parce qu'au fond, c'est elle sa préférée, hein. Celle qui ne fait aucun effort pour qu'il l'aime. Attitude typique d'un homme blanc cisgenre de 2 ans. Bon, après, j'abandonne pas l'espoir qu'un jour il me trouve cool, hein, quand il va capter par exemple que je connais des stars. Non, mais quand il va réaliser que je peux lui avoir des autographes de Quentin Lui et Marion et Manon Mariani, oh là là, il va halluciner. Mais tata Marine, t'es folle, fallait pas, vraiment, vraiment pas. Mais c'est qui? Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on soit tata ou hyper tata, avoir un neveu ou une nièce, c'est une aventure fantastique. Tu te crois armé pour l'accueillir et finalement, quand tu apprends à le connaître, bah, tout est surprise et parfois, tu te retrouves en zizi face à ses réactions. Bisous à Roger et merci Matenot.
Merci Marine Baousson, c'est tout pour ce Zoom Zoom Zen consacré à l'hyperparentalité. Mais vous le savez maintenant, être parent, c'est un boulot à plein temps. Alors plongez-vous dans les 7 autres épisodes de notre série Modern Family et rejoignez-nous tous les jours à 16h sur France Inter.